France Inter, la Terre au carré.
Et donc, nous passons au vert, Camille.
Et le Premier ministre, au milieu de la masse de courriers qui arrive à Matignon chaque jour, a reçu une lettre spéciale qui sort du lot et a fait beaucoup parler il y a tout juste une semaine, mardi 2 avril. Une lettre du Haut Conseil pour le Climat, cette instance indépendante, voulue par Emmanuel Macron après sa première élection, pour évaluer les politiques climatiques de la France. Objet de la lettre, réaffirmer l'engagement climatique de la France avec une trajectoire lisible et mobilisatrice. Lettre dans laquelle les 12 membres représentés par leur présidente Corinne Le Quéré, écrivent, ouvrez les guillemets, le Haut Conseil pour le Climat ne peut que s'inquiéter du risque de recul de l'ambition de la politique climatique induit par les dérives de calendrier de ses instruments les plus structurants. Et ce n'est pas tout, voilà ce qu'il affirme aussi, de multiples aléas vont continuer à s'intensifier à mesure de la poursuite du réchauffement planétaire et la France n'est pas prête à y faire face. Le niveau d'urgence actuel, tant en matière d'atténuation que d'adaptation, invite à réaffirmer fermement et sans délai la politique climatique de la France. Donc, petit coup de pression à Gabriel Attal, assumé par la climatologue Valérie Masson-Delmotte, membre du Haut Conseil.
C'est notre rôle. On est là pour évaluer l'action du gouvernement français vis-à-vis du changement climatique. Et on est inquiet en fait d'un décalage d'un certain nombre d'actions qui étaient prévues.
À commencer par la publication de 5 documents très importants. Alors vous allez voir, c'est un peu jargonneux, mais c'est important. La loi de programmation énergie-climat, la stratégie française énergie-climat, la 3e stratégie nationale bas carbone, le 3e plan national d'adaptation au changement climatique et enfin ce qu'on appelle la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie, le tout pour sortir d'une gestion de crise permanente. Corinne Le Quéré expliquait jeudi à Libération que ces documents sont attendus depuis des mois et qu'il n'y a aucune raison d'attendre autant parce que c'est pas du tout une surprise pour le gouvernement, hein, on le sait depuis 2019, donc 6 ans. Mais pourquoi 5 ans, pardon. Pourquoi envoyer cette lettre là début avril et la rendre publique 2 jours après? Le Haut Conseil serait-il en train de se politiser à l'approche des européennes et juste avant le début de la campagne?
Non, on est très vigilant justement à rester dans un rôle, on va dire, constructif. On souligne les choses qui avancent, les choses qui sont effectuées et puis parfois les retards qui sont pris et on fait des recommandations pour améliorer l'action pour le climat.
Mmh. Bon, dans les inquiétudes, il y a aussi le recul sur le volet agricole et la non prise en compte totale de leur évaluation précisément sur le système alimentaire fin janvier en pleine crise.
Elle est arrivée à un moment vraiment délicat et sensible. Mais par contre, elle n'a pas fait l'objet d'une attention au gouvernement, c'est clair.
Et en parallèle, un peu trop de fanfaronnade, on va dire, de la part de nos dirigeants au sujet de l'annonce d'une baisse de 4,8% des émissions de gaz à effet de serre pour 2023. Valérie Masson-Delmotte, également ancienne coprésidente du groupe 1 du GIEC, hein, prévient...
Finalement, on pourrait se dire que tout va bien par rapport au rythme récent de baisse des émissions, mais une partie est due à des facteurs conjoncturels, le prix de l'énergie, le contexte d'inflation. Tout n'est pas le résultat de mise en place de changements structurels. Pour rappel, la France n'avait pas tenu son premier budget carbone, a revu à la baisse la cible du deuxième pour la période actuelle. Et si on tient compte de l'affaiblissement du puits de carbone forestier par la mortalité des arbres, la moindre croissance des forêts, mais aussi les incendies en 2022, on risque de ne pas réussir à tenir le second budget carbone. Et donc c'est une bonne nouvelle, mais ça n'est pas une raison d'arrêter en fait la motivation à agir.
Voilà, ne pas se relâcher. Et tout cela est bien basé sur des éléments factuels, il y a zéro idéologie. Mais question qui reprend un argument d'ailleurs souvent brandi, y compris par le gouvernement et même par le président. À quoi ça sert que la France fasse plein d'efforts si ça ne suit pas au niveau européen? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai risque d'inégalité en matière de compétitivité notamment? Voici la réponse de la climatologue.
Chacun a son rôle à jouer et il n'y a aucun signe qui suggère qu'il serait intéressant en termes de risques, en termes de cadre pour même la compétitivité des entreprises et ses différentes dimensions de ralentir la transition écologique. Je pense que c'est à chaque fois un mélange d'ambition mais aussi d'opportunité, ce qui peut être gagné et pas simplement l'effort à accomplir. Et puis tergiverser ne résoudra rien, c'est-à-dire tergiverser finalement ne peut que retarder ces transformations qui auront lieu et puis nous exposer collectivement en fait à des conditions climatiques plus difficiles à gérer à l'avenir.
La France a donc bien un rôle important aussi pour l'Union européenne, sorte de modèle réduit des enjeux au niveau mondial, un patchwork dont chaque pièce compte individuellement et collectivement. Il faut partager l'effort.
Il y a besoin de construire collectivement un cadre pour se fixer collectivement les objectifs à horizon 2040, sinon l'atteinte de la neutralité carbone sera hors de portée.
Et la trajectoire pour y arriver, c'est d'avoir réduit en Europe en 2040 par rapport à 90 les émissions de 90%. Et nous en sommes à la moitié du chemin.
Merci Camille Cronier.